Est-ce que vous avez des questions? Nous allons continuer l'effort de la critique par rapport au jugement. Puis nous allons passer au raisonnement. Alors, je vous avais dit qu'au point de vue du jugement, ce qu'il fallait regarder, c'est le problème de la vérité, de la certitude et de l'évidence. Il faut bien comprendre la différence entre ces trois aspects. Le point de vue de la vérité, c'est ce qui qualifie l'intelligence et qui lui permet d'être parfaite. C'est un jugement qui se confronte avec la réalité, qui peut être un jugement vrai. Et alors, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre le point de départ de tout jugement, qui est le jugement d'existence. Et si on supprime le jugement d'existence, immédiatement on modifie la manière de regarder la vérité. Ça, il faut le comprendre parce que c'est important, c'est très intéressant à voir. Parce que alors, dès que vous êtes en face d'une philosophie qui n'accepte pas le jugement d'existence, il y en a quand même pas mal. Alors à ce moment-là, vous voyez qu'immédiatement, le problème de la vérité va être modifié. Il faut comprendre que l'intelligence est capable d'atteindre par le jugement d'existence le réel, la réalité existante, autre qu'elle. Elle est capable de dépasser ce qu'elle possède au-dedans d'elle-même, ce qu'elle a énoncé, ce qu'elle a formé comme verbe composé, qu'elle ne s'arrête pas au concept, qu'elle s'arrête à la réalité connue. Et ceci, c'est surtout dans le jugement que je le vois. Ce n'est pas du tout dans l'appréhension. Et comme l'appréhension est une opération élémentaire, c'est très bien. Ce n'est pas la peine d'insister trop. Mais dans l'appréhension, je ne dépasse pas le concept. Je ne dépasse pas le contenu du concept. Je ne dépasse pas le problème de la signification. Je demeure dans le problème de la signification. Dans le domaine de l'appréhension. Mais l'appréhension n'est jamais vécue en dehors du jugement. C'est ça qu'il faut toujours bien comprendre. Et donc, mon intelligence n'est parfaite qu'en jugeant. Elle n'est pas parfaite en appréhendant. L'appréhension est un moment de la vie de l'intelligence. Un moment important, nécessaire, je ne peux pas avancer sans ce moment, mais ce n'est qu'un moment. C'est vraiment dans le jugement où l'intelligence atteint le terme, ce pourquoi elle est faite. Et c'est en atteignant la réalité existante dans un jugement d'existence, dans le jugement d'existence, que l'intelligence prend conscience, donc nous pouvons en prendre conscience. Qu'on soit suffisamment lucide dans son intelligence. Il y a des jours où le brouillard est très fort, c'est pas la peine d'essayer trop. Il y a des jours où le brouillard est moins fort, essayons de comprendre ce que c'est que le jugement d'existence. Pas la peine de regarder beaucoup de bouquins là-dessus, il suffit tout simplement de réfléchir. Quand vous vous réveillez le matin, vous êtes suffisamment lucide. Je me réveille. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là? Et j'affirme que je touche quelque chose qui est autre que moi en touchant le sol. Jugement d'existence qui se fait par les pieds, vous voyez ça. Parce que ça peut se faire par la main et par se faire les pieds. Vous touchez le sol. Vous dites c'est autre que moi. Et c'est quelquefois très brutalement, ce jugement d'existence. Mais, alors il y a un jugement d'existence qui se fait de cette manière-là. C'est vrai, mon intelligence elle est au bout de mes pieds aussi bien qu'au bout de ma main. Enfin, si elle n'a pas de lieu, alors elle se sert de la sensation et de toutes les sensations. Donc elle est là présente. Et je saisis l'autre. Et en saisissant l'autre, quelque chose qui est autre que moi et que je dis qui existe, qui n'est pas seulement un rêve, je sors de mon rêve et je dépasse le concept que je possède au-dedans de moi-même. Et je dis, ce que j'affirme est vrai. Je suis réveillé. Je suis réveillé, c'est vrai, je suis réveillé. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites je suis réveillé? Je suis capable de discerner la réalité qui est en dehors de moi. C'est ça que vous dites, oui, je suis capable de dire il est 5 heures du matin. Je suis capable de le dire. Si vous vous réveillez à 5 heures du matin. Tandis que quand vous dormiez, vous ne pouviez pas le dire. Vous êtes capable de toucher une réalité qui est le temps. Qui est une réalité, hein, qui me mesure. C'est une réalité, évidemment, qui a un aspect conventionnel, si vous voulez, mais au fond, qui est quand même une réalité. Alors, je suis capable de dépasser ce que je conçois, ce que j'énonce, et de le confronter avec le réel. Et ce réel que je touche, que j'atteins, et je confronte ce réel que je dis et que je conçois avec celui qui, justement, est au-delà de ce que je dis et que je conçois. Et la vérité, c'est vraiment cette conformité de ce que je dis, de ce que je conçois avec ce qui est. Vous voyez, c'est là où on saisit combien saint Thomas a bien compris le jugement d'existence. Quand il dit « adequatio intellectus ad rem », c'est l'adéquation de l'intelligence à la réalité. Si saint Thomas n'avait pas saisi le jugement d'existence, il n'aurait pas pu le dire. Tandis que là, il peut le dire. Et c'est là où on s'aperçoit que, parce que si vous n'avez pas le jugement d'existence, vous ne pouvez pas le dire. Vous restez enfermé dans vos concepts. Alors la vérité, c'est idiot, ça n'a rien du tout. C'est uniquement une harmonie, comme disait quelqu'un. La vérité, c'est que dans votre discours, vous ne dites pas de contradiction. Vous dites un discours vrai parce que vous n'aimez pas de contradiction. Donc c'est vrai ce que vous dites. Alors vous, de votre côté, vous émettez un discours où il n'y a pas de contradiction. Vous êtes dans votre planète, moi je suis dans la mienne. Le tout, c'est pas trop de se cogner. Chacun vit dans la sienne. Et on est dans la vérité tant qu'on ne dit pas de contradiction. C'est évident que ce n'est pas ça du tout la vérité. Si la vérité existe, c'est quelque chose de tout à fait différent. Mon intelligence est capable de comprendre qu'elle peut s'affronter au réel. Mais là, il faut une intelligence parfaitement éveillée. Une intelligence qui continue de dormir. Vous voyez ? Elle n'aime pas beaucoup de s'affronter au réel. Il faut une intelligence qui se sert des sens. Si l'intelligence ne se sert pas des sens et qu'elle reste en laissant la sensation en dehors, elle ne rejoindra pas le réel. Parce qu'il y a toujours cette médiation des sens pour rejoindre le réel existant. Même quand il s'agit de moi-même. Et donc, il y a ce servir des sensations pour rejoindre le réel. Donc, je suis là en présence de ce que représente la vérité prise au sens premier. Nous l'avions vu longuement, alors ce n'est pas la peine d'y revenir. Trop, je souligne. Autre modalité de la vérité affective. Alors, ça aussi, ce n'est pas commode. La vérité affective, la vérité par rapport à l'ami. Quand vous portez un jugement affectif sur un ami, sur quelqu'un que vous connaissez beaucoup, que vous aimez beaucoup, et que vous portez un jugement affectif sur lui, vous dites « Pierre, et mon ami. » C'est un jugement affectif, ça. Pierre est mon ami. Et vous dites, ceci est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites, Pierre est mon ami et ceci est vrai? Vous ne dites pas que Pierre existe. C'est autre chose. C'est ce présupposé. Mais vous pouvez dire aussi, Pierre était mon ami et il le demeure. Hélas, il est mort. Il y a 6 mois. Mais il était mon meilleur ami. Et vous entendez ça constamment. Il était mon meilleur ami. Et il l'est encore. Et il l'est d'une autre manière. Et je vous affirme que c'est comme ça. Alors, jugement affectif sur l'ami, qu'on considère comme étant mon ami. Alors, quelle est la vérité dans ce cas ? Quand il s'agit du jugement d'existence, c'est la réalité qui devient mesure. Et c'est ça que vous avez dit, il y a là quelque chose de tout à fait particulier au jugement d'existence et à la vérité. Il s'agit plus seulement d'objet, il s'agit de mesure. Et au fond, on a beaucoup trop spéculé sur l'objet et pas assez sur la mesure. Pourquoi ? Parce qu'on a oublié le jugement d'existence et on a regardé uniquement l'appréhension. Il y a encore une raison, on voit très très bien ça. Oubliant le jugement d'existence, on ne spécule plus sur la mesure. La réalité n'est plus la mesure de l'intelligence. Et on ne voit plus que le point de vue objectif, que le point de vue de l'objet. Or, le point de vue de l'objet, il est donné dans toute sa force dans l'appréhension. C'est par l'appréhension que je connais parfaitement ce que c'est que l'objet. Ce qui est capable de spécifier ma connaissance. Ce qui est capable de déterminer ma connaissance. Tandis que la réalité joue le rôle de mesure. Elle mesure mon intelligence. C'est très, très curieux. Et alors, elle mesure mon intelligence, comprenez bien. Ce n'est pas du tout comme dans la connaissance scientifique, on parle d'une connaissance qui se fait par la mesure. C'est du reste curieux que ce soit vu de cette manière-là. L'intelligence qui mesure le réel. Tandis que là, c'est le réel qui mesure l'intelligence. Dans quelle mesure, dans la connaissance scientifique, le réel mesure-t-il encore l'intelligence? Ça, c'est une très grave question. Alors, je n'entre pas trop là-dedans. On demanderait à M. Balmès de faire un cours sur la manière dont le réel mesure l'intelligence encore dans la connaissance scientifique. Ça, c'est un très gros problème. C'est un problème très important. Mais c'est toujours, vous voyez, cette question de mesure. Ce n'est pas la question de l'objet. Alors ça, c'est très important, vous voyez, au plan critique, c'est très important de comprendre tout ce qui dépend de l'aspect spécifique, tout ce qui dépend de l'aspect mesure. Parce que ça fait comprendre la richesse de la vie de l'intelligence, et ça fait comprendre que la vie de l'intelligence ne peut pas se ramener uniquement à la question objet-sujet, comme on l'a beaucoup trop dit. L'analyse objet-sujet, c'est vrai au niveau de l'appréhension, mais ce n'est plus vrai au niveau du jugement. Vous voyez, comprenez bien ça, c'est important. Si vous saisissez ça, il y a des tas de bêtises que vous ne direz plus.
Alors c'est intéressant.
Évitez des quantités de bêtises. Quand vous faites l'analyse que je pense à Pierre, ou je saisis, la saisie, c'est la saisie de l'appréhension, la saisie de la nature. De la nature humaine. La saisie de la nature humaine. Je saisis la nature humaine. J'appréhende la cuidité. Je vais toujours dire des choses comme ça. J'appréhende la cuidité. Quand je dis j'appréhende, la cuidité. Le « je », c'est le point de vue du sujet, le sujet connaissant. Et l'acuité, c'est l'objet. Qu'est-ce que c'est l'objet? C'est ce qui détermine mon intelligence, c'est ce qui spécifie mon intelligence. L'objet joue le rôle de principe. Ça, c'est aussi très curieux. Il joue le rôle de principe. C'est ce qui spécifie, ce qui détermine. Ce qui est premier dans l'ordre de la détermination. C'est ça l'objet, ce qui est premier dans l'ordre de la détermination. Cette détermination, elle est dans la réalité, cuidité des réalités physiques, des réalités sensibles. Cuidité des réalités sensibles. Et cette cuidité, du fait même que je l'appréhende, elle est présente dans ma connaissance. Je me l'assimile. Elle est présente dans ma connaissance. Donc, l'objet est présent dans l'appréhension et c'est ce qui détermine l'appréhension. Donc, je suis au niveau de la première opération. C'est en nota bene, si vous voulez. C'est un petit nota bene nouveau. Alors, vous voyez bien, quand je fais l'analyse de l'appréhension, j'ai le point de vue classique, très classique, ultra classique et que vous retrouvez tout le temps, la distinction objet-sujet. C'est du reste pas classique du tout, parce que les anciens n'en parlaient pas, tandis que les modernes en parlent. Donc c'est pas classique du tout, et c'est pourtant très classique. Alors c'est ça qui est très curieux là-dedans. Vous pouvez la distinction sujet-objet. Vous voyez, sujet-objet, vous comprenez que ça vient de Descartes. Alors si Descartes c'est le classique, ça va très bien. Si, objet, la substance pensante. La substance pensante. Je connais. J'appréhende. Je saisis. C'est la substance pensante. Le je qui connaît. C'est le sujet, le je. Et je connais Pierre. Je connais la nature humaine. Je connais l'acuité. Alors vous avez donc objet, sujet. De cette manière, vous pouvez dire, n'est-ce pas, vous comprenez, je peux dire que je cogite, cogito, cogito. Donc, c'est moi, c'est évident. C'est le sujet qui cogite. Je cogite l'être. Je ne sais pas si je peux cogiter l'être. C'est là un point d'interrogation. Puis, il faut répondre. Est-ce que vous pouvez cogiter l'être? Est-ce que l'être, c'est ce que cogite? Ça, on me le dira à la fin de l'année. Très belle question d'examen, oui. Est-ce que je cogite l'être? On verra tout de suite si vous avez compris. Très embêtant quand on ne sait pas répondre. Alors on dit, je cogite l'être. Est-ce que je peux dire que je cogite l'être? Je laisse au point d'interrogation. Bon. Alors, cogito, je ne dis pas ergo sum. Vous voyez, l'ergo sum, je retourne au sujet. Tandis que quand j'ai dit cogite, je cogite l'être. Hein? Je peux dire ça. Bon, alors, je vais regarder maintenant le jugement.
Je vais regarder le jugement. Jugement d'existence. Prends exprès le jugement d'existence. Le jugement le plus simple.
Le jugement le plus simple, c'est ceci est. Donc c'est l'intelligence qui est capable de se référer à la réalité existante en disant le moins de choses possible sur elle. Ceci est. Très peu de choses. Ceci reste très confus. Mais il existe. C'est ça qui m'intéresse. Donc le ceci, je ne le regarde pas beaucoup, il existe. Mon intelligence est capable de se référer à la réalité existante. Mon intelligence en disant « j'existe », c'est le sujet pensant. C'est évident, le sujet existe toujours, il pense. Il pense en jugeant. Mais en jugeant, il se réfère à une réalité qui est extrinsèque, qui est autre. Ah, vous voyez, l'autre apparaît ici. Tandis qu'ici, c'est le même. Ah, c'est le même. Il faut bien comprendre, c'est le même. C'est le même que je connais. Et c'est le même qui est dans la réalité. C'est le même. C'est la similitude, c'est le même. Il y a une similitude dans l'ordre de la forme. Tandis qu'ici, c'est l'autre. Et je dis que dans le problème de la vérité, cet autre devient mesure de ce que je connais, du contenu même de ma connaissance, pas la mesure de mon acte de connaissance, pas la mesure de la vitalité de mon jugement, mais la mesure du contenu de mon intelligence, du contenu de mon jugement, de ce que je dis. Ce que je dis, ceci est. Alors, est, ceci est, devient la mesure de ce que j'énonce, de ce que je dis. Ce négatable, ce qui est dit. Et alors, j'ai cette relation nouvelle, c'est que la réalité qui existe est mesure de ce que je dis, qui est mesuré par cette réalité, et dans la mesure où elle est parfaitement mesurée, qu'il y a une adéquation entre les deux, une conformité parfaite entre les deux, je dis ce que je dis est vrai. Oui, la vérité.
Le problème de la vérité, c'est quand même important. Le problème de la vérité ne met plus en cause immédiatement
l'objet et le sujet, il met immédiatement en cause une réalité existante comme mesure de ce qui est affirmé. C'est autre chose, si vous voulez. Ce n'est pas du tout l'analyse de l'objet et du sujet. C'est l'analyse de ce qui mesure et de ce qui est mesuré. Pour regarder comment la vérité apparaît. C'est très élémentaire, ça. Mais c'est très important, parce que si on ne voit pas ça, on ne voit rien du reste. Et comprendre que, de fait, ce n'est plus le point de vue du sujet et de l'objet, c'est la mesure et le mesuré. Et le mesuré, il faut bien comprendre qu'est-ce qui est mesuré. Ce qui est mesuré, ce n'est pas le jugement dans sa vitalité. Ce qui est mesuré, c'est le contenu de ce qui est affirmé. C'est l'énonciation. Alors, vous voyez que là, alors vous allez me dire, alors, le point de vue de l'objet du sujet n'a rien à faire. Oui, ça a quelque chose à faire. Mais ce n'est pas cela que je regarde en premier lieu. Où est-ce que c'est que la réalité de l'objet du sujet, là? Quand je regarde le jugement. Alors, je vais voir ce que je vais atteindre en prenant ces petites armes, objet-sujet, dont on se sert tout le temps. Ah, vous n'êtes pas objectif. Ce n'est pas une connaissance objective. Vous avez brodé, votre imagination s'est envolée, et alors vous avez affirmé des choses qui ne sont pas vraies. On est objet-sujet, vous n'êtes pas dans l'objectivité. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous regardez le jugement d'existence? Où est l'objet dans le jugement d'existence? Au sens strict, l'objet principe de détermination. Où est l'objet dans le jugement d'existence? Bien, l'objet dans le jugement d'existence, je dirais, c'est ce qui le contenu de ce que j'ai connu. Le ceci, ça vient de la réalité. C'est pas moi qui l'ai déterminé. Donc c'est cette détermination. Là, je suis. C'est toujours la détermination, l'objet. Là, je suis en présence de l'objet. Mais vous voyez que je dois dépasser la détermination pour regarder non plus la réalité en tant qu'elle a déterminé ma connaissance, mais en tant qu'elle existe. Donc, l'analyse que je fais entre sujet et objet est dépassée. Elle est présupposée, mais elle est dépassée. Et je regarde là, la mesure est mesurée. Donc, c'est une autre perspective qui ne s'oppose pas du tout à l'appréhension, qui ne s'oppose pas du tout, mais qui est d'un autre ordre. C'est le contenu même de mon jugement qui implique une détermination par où je peux saisir ce qui a été saisi. Donc je peux saisir l'objet, ce qui a déterminé mon intelligence. Et je dépasse ce point de vue-là pour essayer de comprendre si ce que je connais de la réalité, ce que j'affirme de la réalité, est conforme à la réalité en tant qu'elle existe. L'exister comme tel n'est jamais objet. Très important, ça aussi. L'exister comme tel n'est jamais objet. Puisque ça ne détermine pas l'exister. Quand saint Thomas dit que ce qui est regardé dans le jugement, c'est l'ipsum esse rei, c'est-à-dire l'exister de la chose. Cet exister de la chose, c'est ce que j'atteins dans le jugement. Mais ce que j'atteins dans le jugement, d'une manière très particulière, non pas comme objet du jugement, mais comme ce qui permet au jugement d'être vrai. Et donc, l'exister comme tel est atteint. Il est atteint, mais il n'est pas au sens strict objet. Ce qui est strictement objet, c'est toujours ce qui est assimilé. Ce qui est atteint comme tel l'exister est au-delà de l'assimilation. Je le touche. Et nous n'avons pas de mots pour exprimer ça. Nous n'avons pas de mots. Alors je peux évidemment dire c'est l'objet, oui, je veux bien. Mais au sens strict, l'objet, c'est ce qui détermine. J'ai défini l'objet, principe de spécification. Et ça, c'est classique. L'objet, principe de spécification. Or, l'essai n'est pas un principe de spécification. Au sens tout à fait rigoureux. Il est au-delà de la spécification. Il est ce qui permet à l'intelligence d'être mesurée, d'être vérifiée, et donc ce qui permet à l'intelligence de dire ceci est vrai. Vous voyez, c'est pour que vous compreniez mieux que la distinction objet-sujet, c'est très intéressant, mais il faut surtout la dépasser. Et il faut comprendre autre chose. Et c'est pour ça, vous voyez, tous les équivoques qui peuvent exister quand on se dit, est-ce que Dieu est objet de la connaissance? On a tous entendu ces grosses objections. L'intelligence est incapable d'atteindre l'existence de Dieu, puisque Dieu ne peut pas être un objet de l'intelligence. Vous voyez les confusions, les équivoques terribles dans une parole comme celle-là. Dieu n'est pas l'objet de la connaissance, de l'intelligence, c'est bien évident. Je n'ai pas un concept de Dieu. Je ne peux pas assimiler l'essence de Dieu. Donc l'intelligence ne peut pas être spécifiée par Dieu, c'est sûr. Pas déterminé par l'essence de Dieu. Mais cela n'empêche pas que l'intelligence est capable d'atteindre l'existence de Dieu et de l'affirmer. Alors, atteindre dans un jugement d'existence, comprenons bien, ce n'est pas être spécifié, c'est affirmer Dieu existe. Quand mon intelligence affirme Dieu existe, qu'est-ce que mon intelligence atteint? Pour certains, c'est tout simplement la composition que l'intelligence fait dans l'énonciation de l'exister. Donc la copule, comme on dira. L'intelligence saisit Dieu existe, oui, Dieu existe, Dieu est, mais elle ne saisit rien du tout de Dieu. Elle ne saisit que exister. Donc elle affirme ça. Vous comprenez qu'à ce moment-là, l'intelligence ne saisit rien du tout de Dieu. Donc, l'analogie à l'égard de Dieu disparaît. Dieu est dans sa transcendance, il est affirmé, mais je n'en sais rien du tout, je ne connais rien du tout. Tandis qu'au contraire, si je dis que dans l'affirmation Dieu existe, mon intelligence atteint quelque chose de la réalité de Dieu. Elle atteint que cette réalité est autre, totalement autre. À ce moment-là, je comprends que je puis préciser ensuite certaines affirmations. Dieu est sage, Dieu est bon, Dieu est un. Au nom de quoi je pourrais faire ces affirmations si de fait je disais que dans le jugement d'existence, je ne saisissais rien de Dieu. La sagesse n'est pas dans la copule est. La toute-puissance n'est pas dans la copule est. Alors, il faut donc que mon intelligence ait saisi quelque chose de la réalité, que j'affirme Dieu existe, pour pouvoir dire Dieu est ça, Dieu est tout-puissant. Mais cela ne veut pas dire que Dieu soit l'objet. Donc je peux affirmer en même temps, Dieu n'est pas l'objet de mon intelligence. Et cependant, mon intelligence est capable d'affirmer son existence. Alors, mettez les deux formules, les deux à côté des autres, et puis réfléchissez sur ce que ça représente. Parce que c'est à partir de là que nous pouvons secouer vis-à-vis d'un problème si important pour nous. De bien comprendre la situation exacte de l'intelligence par rapport à l'existence de Dieu. Qui affirme Dieu existe. Donc, vous voyez que le problème de la vérité apporte immédiatement au niveau critique de nouvelles distinctions, que les distinctions objet-sujet ne suffisent pas. Les anciens étaient beaucoup plus impressionnés par le problème de la vérité que par le problème de l'objectivité. Les modernes sont beaucoup plus impressionnés par le problème de l'objectivité que par le problème de la vérité. C'est curieux. Et à cause de quoi ? Eh bien, je crois parce que, justement, on a oublié le jugement d'existence. Alors, en oubliant le jugement d'existence, on n'a plus regardé que l'appréhension et on n'a plus regardé que le problème du sujet de l'objet. Oui. Donc là, c'est encore une petite piste à regarder et intéressante pour mieux saisir cette complexité. On aura une troisième complexité de l'intelligence, hein. Troisième problème, vous pouvez le mettre tout de suite et on y reviendra là-dessus. Troisième problème, c'est le raisonnement. Le raisonnement ne s'explique pas par le point de vue objet-sujet. Le raisonnement ne s'explique pas par mesure et mesuré. Le raisonnement va s'expliquer encore par autre chose. Vous voyez bien, donc, faisons attention. La critique de l'intelligence me donne, dans l'analyse que je fais au niveau critique, des points de vue différents, objet-sujet, mesure et mesuré. Alors ici, je ne précise pas le raisonnement. C'est ni mesure et mesuré, c'est ni objet et sujet. C'est quelque chose de tout à fait particulier quand il s'agit du raisonnement. Alors, il y a deux raisonnements, le raisonnement inductif et le raisonnement déductif. Le raisonnement inductif, c'est l'intelligence qui découvre les principes propres. Et alors, quand l'intelligence découvre les principes propres, alors je pose la question, là encore, les principes propres sont-ils objets au sens propre de la connaissance ? Est-ce que je saisis les principes propres comme un objet de la connaissance ? Ils sont saisis au niveau de la deuxième opération. Ils sont saisis au niveau de la deuxième opération. Au niveau de la deuxième opération, je vous ai dit, il y a quelque chose qui dépasse le point de vue de l'objet et du sujet. Alors, est-ce que je peux dire que mon intelligence est spécifié par les principes. Eh bien, je peux dire ça. Je peux dire que mon intelligence est spécifiée par les principes. Elle est déterminée par les principes. Dès que je découvre un principe, je découvre quelque chose qui détermine mon intelligence. C'est l'autre spécification. Donc, il y a un objet. Mais comme il est différent, hein, comme il est différent de l'objet de l'appréhension, c'est tout à fait autre chose. Et c'est vrai que les principes propres sont bien objets. Je les saisis. Le jugement d'existence est dépassé. Je ne suis pas en présence du jugement d'existence. Je saisis un principe. Un principe propre. Et c'est là où le problème de l'évidence va apparaître. Le principe propre, il est évident. Quand j'ai saisi un principe, il est évident. Alors, il y a quelque chose qui vient déterminer mon intelligence pour permettre à mon intelligence d'être dans l'unité par rapport à ses principes propres, c'est-à-dire de les saisir parfaitement. Et quand l'intelligence déduit, ah, alors là, c'est différent. Est-ce que la conclusion est un objet ? C'est un objet par le moyen des principes. Alors là, je distinguerai l'objet immédiat, l'objet média, au niveau des principes. Un objet qui n'est pas du tout le même que dans l'appréhension, c'est ça qui va compliquer. Parce que si l'objet était uniquement au niveau de l'appréhension, ce serait relativement facile. C'est un objet qui est au niveau du jugement, et qui est au niveau des principes propres qui déterminent mon intelligence. Bon, je laisse tomber ça. Hein. Revenons à la question de la vérité. Donc, j'ai dit vérité au niveau jugement d'existence. vérité affective. Pierre est mon ami. Et quand je vous dis ça, c'est quelque chose de vrai. C'est vrai que Pierre est mon ami. Alors, quelle est la mesure de ce jugement d'existence? Réfléchissez bien. Parce que vous avez dit ça plus d'une fois. Pierre est mon ami. Ou Jacques est mon ami. Peu importe. Hein. Pas pour l'ami, mais pour la réflexion philosophique. Donc, c'est quelque chose de très particulier quand je dis Pierre est mon ami. Et ceci est vrai. Ce n'est pas l'exister de Pierre. Qu'est-ce qui devient la mesure? La mesure de mon jugement, affectif, qui implique une déclaration d'amour. Oui, c'est important, ça. Dans le mariage, c'est une déclaration d'amour. Le oui, c'est nécessairement une déclaration d'amour. Prenez-vous un tel pour votre époux, votre épouse. Oui. Et on demande à l'autre de dire oui. Donc jugement de dire c'est la vérité. De dire c'est la vérité. Alors, jugement affectif. Un jugement affectif. Alors quelle est la vérité de ce jugement affectif? Heureusement que les époux et les épouses ne sont pas posés la critique de la vérité du jugement affectif, n'est-ce pas? À ce moment-là, il y aura un point de suspension pendant un certain temps. Faisons la critique de cet amour pour voir s'il est vrai ou faux, et si le jugement affectif sera vrai. Parce qu'il faut comprendre quelle est la mesure de cette affirmation du jugement affectif. C'est l'amour que j'ai pour Pierre et l'amour que Pierre a pour moi qui permet de dire c'est mon amour. Et donc, c'est vraiment l'amour qui est la mesure du jugement affectif. Très curieux. L'amour réciproque dans l'amour d'amitié. L'amour réciproque, c'est pour ça que dans le mariage, on demande deux fois. Parce que quelqu'un dit, c'est une répétition. Non, c'est pas une répétition. C'est une réciprocité. Il faut que cet amour soit réciproque. Pour qu'il puisse jouer le rôle de mesure du jugement affectif et de la déclaration d'amour. Donc, vous avez là quelque chose de tout à fait nouveau. Parce que cette mesure, l'amour, mais c'est très subjectif. Et c'est en même temps, mais ça fonde une objectivité. Du fait même que j'aime quelqu'un, c'est très subjectif. Parce que je ne sais pas pourquoi je l'aime. Il y a des raisons du cœur que je ne peux pas préciser. C'est vrai, quand vous essayez de comprendre pourquoi on aime une personne et qu'on n'en aime pas l'autre. Alors que l'autre est beaucoup mieux, objectivement parlant. Elle est beaucoup mieux, objectivement parlant. Vous voyez, là, l'objectivement parlant, c'est très très curieux. L'objectivement parlant qui vient tout brouiller et qui fait qu'on n'y comprend plus rien du tout. Parce qu'un jugement affectif ne se fait pas objectivement parlant. Il se fait en raison d'une subjectivité qui fait que j'aime cette personne, ça c'est subjectif que je l'aime, et du fait que l'autre m'aime, c'est subjectif de sa part, et du fait même qu'il y a cette intersubjectivité, là l'intersubjectivité est vraie, dans cette intersubjectivité, il y a une objectivité qui naît. Je ne sais pas comment ça se fait, mais il y a une objectivité qui naît, et je peux déclarer « Pierre est mon ami ». Et Pierre déclare en même temps, Jules est mon ami. Alors à ce moment-là, à l'intérieur de cette intersubjectivité de l'amour, il y a une objectivité qui se produit. Et mon jugement est vrai. C'est extraordinaire ça. C'est la naissance de la vérité dans le jugement affectif est une chose très étonnante. Parce que ça brouille toutes les cartes. De la subjectivité naît l'objectivité. C'est pas de l'objectivité naît la subjectivité, pas du tout. C'est de la subjectivité qui enveloppe tout, mais une objectivité. Une objectivité qui me permet de dire « Pierre est mon ami » et l'amour que j'ai pour Pierre mesure la vérité de mon dire. Et l'amour de Pierre pour moi confirme cette objectivité. Ça la confirme. Et pas plus. C'est pas parce que Pierre m'aime que je l'aime. Non. Ce serait faux. Mais c'est parce que je l'aime, parce qu'il est un tel, parce que je l'aime, lui, en particulier, dans son caractère tout à fait particulier, c'est parce que j'aime Pierre que je peux déclarer qu'il est mon ami. Et en même temps, je peux déclarer que mon ami, c'est parce qu'il m'aime aussi. Parce qu'autrement, il n'y aurait pas réciprocité, je ne pourrais pas déclarer que mon ami. Je pourrais déclarer, j'aime Pierre, mais malheureusement, je ne sais pas s'il m'aime. Alors, tant que je ne sais pas, je reste inquiet. Donc, il y a la réciprocité qui permet une objectivité plénière à l'intérieur même de cet amour mutuel qui est connu des deux. Donc, vous voyez comment il y a une nouvelle mesure dans la vérité du jugement d'existence. Alors, vous pourriez continuer, parce que c'est intéressant à faire, quelle est la vérité à l'intérieur de la connaissance artistique. Alors là, il y a des vérités multiples.
Il n'y a pas qu'une seule vérité.
Quelle est la vérité à l'intérieur même du jeu, de votre connaissance artistique? Première vérité, à l'égard d'une réalité que vous voyez et que vous dites, oh, comme elle est belle cette réalité, comme c'est beau. Et l'autre vient en disant, pas du tout, tu te trompes, il n'y a que toi qui dis ça. Quelle est votre critère de beauté pour saisir une réalité qui est extrinsèque à vous. Oui. Je suis vrai dans l'ordre artistique, dans l'ordre esthétique, lorsque ce que je dis être beau est véritablement beau. Et je vous dis que c'est beau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous avez fait un voyage magnifique, vous avez vu des choses étonnantes, vous revenez en disant à votre ami, je t'affirme que tu ne seras pas déçu, c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment très beau. Donc, c'est vraiment très beau. Et vous dites ça, vous voyez? Donc, à ce moment-là, vous affirmez que votre jugement que vous portez sur une réalité belle, vous dites qu'elle est vraie. Que ce jugement est vrai sur cette réalité belle. L'autre peut dire, mais tu sais que j'ai des goûts totalement différents de toi. Et ordinairement, quand tu dis que quelque chose est beau, moi je dis que c'est laid. Ça peut très bien arriver, on peut très bien se reconnaître ces choses-là. Et donc, ce que tu me dis est très très beau, est-ce que c'est vraiment beau? Je ne sais pas. Alors qu'est-ce qu'il répondra? Je t'affirme que là tu ne seras pas déçu et tu trouveras que c'est beau. Donc il peut très bien revenir dessus. Alors quel est le critère dans une connaissance artistique? Quel est le critère d'un jugement qui estime une réalité belle? Quel est le critère qui permet de dire que ce jugement est vrai? Et je cherche des critères dans les divers types de connaissances. C'est très intéressant ça, parce que ça montre très bien qu'on affirme des quantités de choses qu'on n'a pas été jusqu'au bout. Parce que si vous n'arrivez pas à déceler le critère de telle ou telle connaissance, alors vous êtes dans le vague. C'est comme celui qui enseigne sans savoir quel est le critère de ce qu'il enseigne. C'est pas. Alors quel est le critère? C'est très curieux ça. Y a-t-il un critère? Ou y a-t-il tout simplement une très forte émotion? J'étais tellement ému qu'on veut faire propager. Et dans l'ordre de l'émotion, c'est vrai, j'ai été très ému. Ce n'est pas la même chose. J'ai été très ému en voyant cette chose-là. Je suis persuadé que tu seras aussi très ému. C'est quand même bouleversant. Ce n'est pas la même chose que dire c'était très beau. Je t'affirme, c'est vrai ce que je dis, c'était très beau. Ce n'est pas la même chose. Donc il y a dans la beauté quand même une certaine objectivité par rapport à la chose qu'on affirme belle. Mais en même temps, cette chose qu'on affirme belle dépend énormément du sujet. Ce n'est pas du tout une objectivité qui est la même que l'objectivité de l'appréhension ou de la connaissance des principes. Il y a une certaine objectivité qui est tout à fait différente. Et le critère de vérité, c'est quoi? Ça, c'est pas commode. Quel est le critère de vérité que vous mettez dans la connaissance artistique? Oui. Je ne parle pas encore de l'art. Je parle uniquement de mon goût. Je parle de mon goût. J'ai vu quelque chose, vous voyez, d'admirable. J'ai vu une statue très très belle. Je dis, cette statue est merveilleuse. Elle est très belle. Je vous affirme qu'elle est très belle. Vous voyez? Alors quand vous dites c'est vrai ce que je dis, elle est très belle. Ben, vous le dites ça, on le dit couramment. Alors, quel est le critère qui me permet de dire je vous affirme ce que j'ai vu vraiment est beau? Oui. Qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas plus simple? Est-ce que c'est pas plus simple? Quand vous êtes ému, vous êtes saisi par quelque chose, vous dites c'est beau. Et vous dites c'est vraiment beau. Vous affirmez ça, vraiment c'est vraiment beau, il y a quelque chose. Alors vous cherchez ça.